c'est parti. Faire époque, j'ai trouvé cette expression dans une revue de sciences humaines. C'est intéressant parce que c'est difficile quand même sur le papier de caractériser une période historique dont on fait l'expérience, qu'on est en train de vivre. Il faut qu'elle soit révolue l'époque pour qu'on puisse la définir, la limiter, la circonscrire dans le temps. Dans quelle époque est-ce qu'on se trouve en ce moment, par exemple, à l'heure de bouleversements dont on ne peut encore mesurer l'impact, la résonance? Parler d'époque, est-ce que c'est pas déjà s'en remettre au passé? Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, vous le savez, c'est l'accélération du temps auquel j'essaie de résister, mais qui implique qu'on a toujours le sentiment d'entrer dans une nouvelle ère, et donc la tentation constante de parler d'époque, et on va pas se mentir, de faire dans la nostalgie, dans le « c'était mieux avant », dans le bon vieux discours de l'effondrement. Qui est-ce qui fait l'époque en réalité? Nous qui y vivons, ou celles et ceux qui cherchent à tout prix à la saisir? Je pense à ce grand roman anglais du 19e siècle qui a été traduit en français sous le titre « Quelle époque ?». L'auteur Anthony Trollope y pointait les vices de ses contemporains dans toutes les sphères de la société avec ce curieux mélange de résignation, d'autodérision, mais aussi, il faut le dire, de réaction. Tu parles d'un titre « Quelle époque ?».
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui en a traversé des époques. Académicien, professeur honoraire au Collège de France, il fait partie de ces intellectuels dont la voix, ô combien singulière, compte et mérite d'être entendue. Une anthologie de nombre de ses articles vient de paraître dans la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont. Bonjour, Marc Fumaroli.
Bonjour.
Merci beaucoup
et
d'être
merci
là.
Merci à vous de m'inviter.
Tout d'abord, dans quelle époque est-ce que vous avez le sentiment de vivre, vous, aujourd'hui?
Une époque très étrange, très inattendue, qui déraille.
En quoi?
Qui l'osa? Je ne peux pas le savoir. Je constate simplement que nous vivons dans une instabilité profonde et angoissante.
Par exemple, quand vous pensez au mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce que vous voyez? À quoi vous pensez?
Je pense aux états généraux, aux petits cahiers que la France entière a envoyés à Versailles, et qui a si mal tourné.
Ça vous inspire une inquiétude?
Très grande.
Cette colère qui gronde depuis des mois, vous la comprenez pour autant?
Je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas parce que la France est un des pays du monde où l'État est le plus attentif aux besoins de ses citoyens. Nous avons une sécurité sociale incroyable, de générosité, de compétence. Nous avons des institutions pour aider les chômeurs à trouver un emploi. Nous avons des institutions pour toutes sortes de difficultés que les Français peuvent avoir. Et en récompense de cela, eh bien, on rend l'avenir de ce pays en péril.
Mais le mal-être, il est bien présent, Marc Fumaroli?
Mais le mal-être, c'est une affaire entendue, mais comment peut-on résoudre un malaise par un malaise encore plus grand?
Quel sentiment est-ce que c'est pour vous la colère, d'ailleurs?
Moi, je trouve que la colère, c'est souvent une passion d'enfant gâté.
Vous n'êtes jamais en colère, vous?
J'ai horreur de ça. Le seul fait d'entrevoir de la colère autour de moi me chasse, me fait fuir.
Et dans votre jeunesse, vous n'étiez jamais en colère?
Jamais.
Jamais?
Non.
J'arrive pas à vous croire.
Non. Contre quoi? Contre qui? De quel droit serais-je en colère?
Contre l'injustice, par exemple?
Mais je ne serais pas en colère. J'essaierai de remédier à cette injustice.
L'injustice de la France dans laquelle vous avez grandi? Dans quelle France vous avez grandi, d'ailleurs, Marc Fumaroli?
J'ai grandi au Maroc. Et je suis arrivé en France à l'âge de 17 ans, après mon baccalauréat. Déjà toute ma jeunesse au Maroc, je rêvais de ce pays. Je l'adorais, je l'étudiais, je faisais mon mieux avec le petit peu que j'avais à ma disposition dans une lointaine ville de province, si j'ose dire,
vous osez.
Du protectorat, c'est-à-dire la ville de Fès.
C'est une époque qui a quand même été marquée par des heures sombres, l'occupation allemande. Quel souvenir est-ce que vous en gardez?
Ah ben ça, c'est une horreur absolue. Puis depuis, on en a appris de toutes les couleurs, si je veux dire. C'était une période atroce. Mais mes parents s'étaient réfugiés, enfin, c'était pas réfugiés, mais enfin, ils étaient au Maroc, et au Maroc, il s'est rien passé de grave pendant la guerre. Ce fait qu'on avait du mal à imaginer la situation de l'Europe vue depuis l'Afrique du Nord.
Alors quel constat est-ce que ça a été? Quelle sidération quand vous l'avez vu en France?
Ben, en France, ce que j'ai vu, c'est quand même un pays qui était en train de se relever et qui était encore assez brillant, je dois dire. Malgré les horreurs qui s'étaient passées, le pays se retrouvait, se refigurait. Je découvrais le théâtre, je découvrais les musées, je découvrais tout ce qu'il y a de plus appétissant, si j'ose dire, dans les villes françaises.
Est-ce que la Seconde Guerre mondiale a fait de vous un Européen convaincu?
Moi, je suis un Européen plus que convaincu. Je crois que l'avenir de ce pays est lié étroitement à l'idée d'une Europe unie, d'une Europe qui se soutient mutuellement.
Alors à l'heure des divisions et de la montée des nationalismes, quelle question est-ce qu'elle vous pose notre Europe aujourd'hui, Marc Fumaroli?
Ben écoutez, je dois dire qu'après 70 ans de paix, on arrive à un moment où la paix a des effets négatifs. Et là, on voit très bien que l'Europe est en danger. Donc il faut la soutenir encore plus intensément qu'on l'a fait jusqu'ici, où nous sommes contentés d'accepter son existence et de jouir de ses avantages.
Je vous pose ces questions parce que je ne peux m'empêcher de penser à un livre que vous avez écrit il y a 16 ans, je crois, qui s'appelait « Quand l'Europe parlait français ». Oui. Et dites-moi si je me trompe, mais dès le titre, on perçoit une vague nostalgie vis-à-vis d'une grandeur passée de la France.
C'est une grandeur passée, mais pas si passée que cela. D'abord, il restait encore, il y a peu de temps, des générations en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre, en Russie même, qui parlaient français, qui considéraient que parler français, c'était appartenir à une civilisation.
Quelle langue est-ce que c'est, le français, pour vous?
C'est une langue qui porte avec elle l'héritage de la latinité, de Rome, l'héritage de la Grèce, l'héritage de ce qu'il y a de plus européen en Europe.
Et comment expliquez-vous qu'elle ait perdu de son influence?
Elle a perdu de son influence parce qu'elle est devenue moins puissante. Mais malgré l'universalité commerciale de l'anglais, le français reste, pour des minorités élues, si j'ose dire, en tout cas remarquables, elle reste une sorte de parenté réciproque entre Européens.
Quelles sont les conséquences de cette perte d'influence, toutefois?
Les conséquences ne sont pas si tragiques que cela.
Ah bon? Parce que vous parlez d'une érosion de l'intelligence française. Ce sont les mots que vous employez dans l'entretien avec Paul-Victor Desarbes qui ouvre cette anthologie qui s'appelle Parti pris. C'est fort quand même, une érosion de l'intelligence française.
C'est-à-dire, c'est une érosion, peut-être pas de l'intelligence, la formule est un peu brutale, mais disons de l'élite française.
C'est grave, ça?
Ça me semble grave, oui.
Qu'est-ce qui rend la France grande, pour vous, Marc Fumaroli?
C'est sa continuité, une extraordinaire continuité. Elle a eu une magnifique Moyen-Âge, elle a eu une magnifique âge classique, elle a eu un magnifique 18e siècle, d'une élégance et d'une grâce sans pareil.
Avec une révolution quand même.
Et tout ça s'est terminé par une révolution, à mon avis, très injuste, parce que le gouvernement de Louis XVI était un gouvernement très généreux, très libéral, très ouvert aux Lumières, et même producteur lui-même de Lumières. Donc on a affaire là, effectivement, à un des aspects les moins étudiés de l'histoire de France, c'est-à-dire l'injustice des Français envers un certain nombre d'institutions.
Qui perdurent encore aujourd'hui, selon vous.
Qui perdurent encore aujourd'hui, oui.
Celle qui fait honte à la France, et quelque chose me dit que Marc Fumaroli sera aussi de cet avis, c'est la culture et son actualité légère, peu consistante et criblée de fautes de grammaire par-dessus le marché. Que se passe-t-il donc aujourd'hui ?
Acte de présence, jusqu'à dimanche, Radio France vous présente Présence, rendez-vous maison de la création musicale contemporaine. Et cette année, la 29e édition met à l'honneur le compositeur allemand Wolfgang Grimm, géant du genre à qui l'on doit plus de 400 œuvres, presque autant que Beethoven. Pour l'occasion, 16 d'entre elles seront interprétées par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et plusieurs autres formations de prestige. C'est chic.
Un scandale ! Un scandale !
Hier, One Second, le film du cinéaste chinois d'épouses et concubines, notamment Zhang Yimou, a été retiré de la compétition officielle de la Berlinale. L'œuvre qui devait être projetée vendredi en avant-première mondiale raconte l'histoire d'un prisonnier qui s'échappe de son camp de travail pendant la révolution culturelle. Apparemment, ça n'a pas plu à la Chine, où la censure des médias, d'internet et du cinéma s'est considérablement renforcée depuis 2012 et l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. La semaine dernière déjà, toujours à la Berlinale dans une catégorie parallèle, un autre film chinois avait été déprogrammé. Dur. Un grand oui pour Guiri. Le musée du jeu de paume à Paris inaugure aujourd'hui Carte et territoire, la première grande rétrospective française consacrée au photographe italien Luigi Guiri. Ancien géomètre, inventeur de la photo contemporaine et maître de la couleur, l'artiste voyageur explore dans ses clichés au charme rétro et à la beauté hypnotique les transformations radicales des territoires urbains des années 70 en fixant rues, affiches, vitrines et espaces urbains. Sorcières d'enfer. Hier, l'association des librairies sorcières et celle des bibliothécaires de France ont dévoilé les 6 lauréats 2019 des prix sorcières pour les ouvrages jeunesse. Parmi les résultats, dans la catégorie Carrément beau mini, c'est Une super histoire de cow-boy de Delphine Perret publiée aux éditions Les Fourmis Rouges qui remporte la mise, tandis que Petit soldat de Pierre-Jacques et Jules Aubert paru au Seuil s'impose dans la catégorie Carrément beau maxi. On notera par ailleurs que le domaine du livre jeunesse est presque le seul à résister à la violente chute des ventes enregistrée dans le monde de l'édition en 2018 est constaté par Livre Hebdo au début du mois. L'académicien Marc Fumaroli, invité de Boomerang ce matin pour parler du monde, pour parler d'aujourd'hui, pour parler de culture aussi. Que vous inspire-t-elle d'ailleurs cette notion si biaisée, pour reprendre vos mots, de culture ?
Oui, parce que pour moi, culture, c'est au sens latin. C'est la manière dont quelqu'un sort de la simplicité naturelle pour atteindre justement à l'intelligence, au goût, au talent. Mais peu à peu, on a entendu par ce mot quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je viens de décrire, c'est-à-dire le divertissement de masse. Et ce que j'ai reproché au ministère de la Culture, qui aurait son sens si le mot culture avait le sien ou gardait le sien, c'est justement d'avoir favorisé la culture de masse à l'américaine dans ce pays où la culture populaire était si brillante. Souvenez-vous que nous avions quand même des chansonniers superbes. Nous avions un théâtre d'opéra comique superbe. Nous avions toutes sortes de formes, disons, populaires, qui était de grande qualité.
Il y a toujours une vitalité dans ces domaines, aujourd'hui.
Est-ce que vous la trouvez aussi brillante ? Est-ce que vous ne pensez pas que on a rendu les armes au rock'n'roll et autres formes de culture de masse ?
Je suis sûr que vous aimez bien le rock'n'roll en vrai, Marc Fumaroli, que vous l'écoutez secrètement.
Mais écoutez, j'en ai entendu parler.
Ça veut dire que pour vous, il n'y a pas lieu de s'enorgueillir de notre exception culturelle, qui est tributaire de l'implication de l'État.
Et à mon avis, la tentation a été grande, je ne sais pas si elle perdurera ou pas, de confondre culture et divertissement de masse.
Si je vous entends bien, quand même, vous déplorez qu'on délaisse un patrimoine qui existe déjà et à la conservation duquel il faudrait travailler.
Je ne crois pas qu'on le délaisse, il faut dire. C'est quand même l'État se préoccupe magnifiquement de ce patrimoine qui, effectivement, attire en France, au moins jusqu'aux Gilets jaunes, une majorité extraordinaire de touristes. La France est un pays qui est fascinant pour le reste du monde.
Même à l'époque des Gilets jaunes, il y a toujours des touristes, Marc Fumaroli.
Vous croyez ?
Bien sûr. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous être un conservateur ?
Conservateur, à mon avis, c'est un mot qu'il faut réhabiliter. conserver, c'est aller à contre-courant du temps qui emporte tout sur son passage. Et c'est tellement merveilleux de voir quelque chose qui résiste au temps et qui est là comme une assise sur laquelle vous pouvez compter, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. La vie est dure, même pour les riches ou même pour les pauvres. Et nous avons besoin de points d'appui, de références. Nous avons besoin de ce qui dure.
Ce qui est certain, c'est que vous avez toujours eu à cœur de défendre les trésors du passé, ceux des cultures latines et grecques notamment. Et c'est d'ailleurs un texte inspiré de l'Iliade que vous avez choisi de partager avec nous ce matin. Un texte tiré de l'Iliade de Rachel Bespalov, publié aux éditions Alia, dont je vais m'empresser, si vous le voulez bien, à votre demande, de lire les toutes premières lignes. Hector a tout souffert et tout perdu sauf lui-même. Dans la troupe assez médiocre des fils de Priam, lui seul est prince, fait pour régner, ni surhomme, ni demi-dieu, ni semblable aux dieux, mais homme, et prince parmi les hommes. À l'aise en cette noblesse, sans apprêt, qui ne souffre ni orgueil dans le respect de soi, ni humilité dans le respect des dieux. Il a beaucoup à perdre, étant comblé, et toujours au-dessus de ce qui le comble par son ardeur à défier le destin. Protégé d'Apollon, protecteur d'Ilion, défenseur d'une cité, d'une femme, d'un enfant, Hector est le gardien des bonheurs périssables. La passion de la gloire l'exalte sans l'aveugler, le soutien ou l'espoir l'abandonne. Pourquoi avoir choisi ce texte ?
D'abord, je trouve qu'il est superbe. C'est la langue de Bossuet. Cette femme écrivait cela au début de la guerre. Elle s'est suicidée en 49 parce que elle ne se remettait pas de ce qu'elle avait appris sur les chambres à gaz, les déportations, le génocide envisagé par l'Allemagne du peuple juif.
Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, Hector ? Que nous apprend son destin ? Que nous enseigne-t-il ?
Eh bien justement, il m'enseigne à être mortel sans être désespéré, à être mortel sans être désespéré.
Il est dit dans le texte que je viens de lire qu'il est le gardien des bonheurs périssables. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Écoutez, c'est assez clair. C'est ça que devrait être la culture. C'est apprendre la vie qui finit un jour, toujours, avec la joie de la partager avec les siens.
À quel bonheur périssable vous est-il arrivé de céder, vous, Marc Fiumaroli, au cours de cette vie consacrée à l'étude ?
Écoutez, j'ai écrit sur le théâtre, j'ai écrit sur la musique, j'ai écrit sur la peinture, beaucoup. J'ai une faiblesse pour l'art des peintres, et en général pour l'histoire de l'art. Je regrette, par exemple, qu'il n'y ait pas une agrégation d'histoire de l'art pour l'inscrire plus profondément dans l'éducation des jeunes Français.
Quelle est la question que vous n'avez jamais cessé de vous poser, toute votre vie, à laquelle vous n'êtes jamais vraiment parvenu à répondre, Marc Fiumaroli?
Écoutez, il y en a beaucoup. La plus grave, c'est la question religieuse. J'ai la foi et en même temps, je suis travaillé par le doute. Et ça me tourmente assez souvent.
Depuis toujours?
Depuis mon enfance.
On va continuer à s'en poser des questions, alors parce qu'elles sont pour moi source de joie, de bonheur, de bon. Et on va écouter ensemble la délicieuse Eartha Kitt, justement, qui chantait en français « C'est si bon ». En 1962, vous êtes sur France Inter avec Marc Fiumaroli. Vous écoutez vos mots.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui ont dit en langue, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon.
C'est bon.
Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue. Bras dessus, bras dessus. En chantant des chansons. Quel esprit merveilleux.
C'est bon.
Je cherche un millionnaire. Avec des grands Cadillac cars, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand.
C'est bon.
Si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il a cette autorité naturelle, vous savez, couplée d'excellentes manières, d'une grande élégance qui font le charme un peu désuet de l'homme de lettres, profil aristocratique, cheveux blancs. On s'imagine volontiers à ses côtés dans un salon style Louis XVI, à déguster des liqueurs hors de prix et à lire les pensées de Pascal qu'on déclamerait entre deux gorgées, avec son petit costume ce matin et sa chemise Vichy, l'académicien Marc Fumaroli, invité de Boomerang, pour parler peut-être d'abord de littérature. Avant toute chose, quand et comment votre passion pour les livres est-elle née?
Mon Dieu, elle est née alors que j'étais encore enfant. Ma mère avait emmené avec elle au Maroc une bibliothèque. Elle savait qu'elle ne trouverait pas beaucoup de livres sur place. Et donc j'ai lu très tôt Molière, Racine, Corneille, tous les classiques qu'elle avait emmenés avec elle, et aussi beaucoup de livres sur la guerre. Elle était hantée par la guerre. Elle avait perdu son frère aîné dans les derniers jours de la guerre de 14. Et la famille, sa famille à elle, ne s'en remettait pas.
En quoi ces lectures ont fait de vous l'homme que vous êtes encore aujourd'hui, à votre avis?
Ah, sûrement. Je retrouve, en regardant cette anthologie, toutes les questions que je me posais naïvement quand j'étais enfant.
Par exemple?
Mais par exemple, le fait que ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas non plus peut-être même la religion qui nous aide à regarder avec bonheur le monde, c'est la littérature. Et la littérature, on devrait l'appeler plutôt les humanités.
Que faut-il pour que vous soyez admiratif d'un écrivain, Marc Fumaroli?
Alors là, c'est tout le problème de la critique littéraire.
C'est un gros problème.
C'est très difficile à définir, c'est très difficile à cerner, mais à mon avis, quand on a le bonheur d'avoir pu lire beaucoup, on arrive à un moment où, en ouvrant un livre et en lisant une page, on sait que il faut le lire jusqu'au bout ou il faut l'abandonner.
Parce qu'il a du style.
Parce qu'il a du style et surtout parce qu'il a du cœur.
Ça me fait penser à ce passage d'un exercice d'admiration que vous consacrez à Jean d'Ormesson, dans lequel vous écrivez ceci. La littérature, c'est le style. Non pas l'écriture, cette scie pour intellectuel des années 60. Le style, c'est ce qui dure dans la vision du monde que l'écrivain a à partager. Une vision du monde littéraire appelle le style, mais exclut le système. Le style est là pour créer une harmonie avec des sons discordants, des silences, des étonnements, des intuitions contradictoires et même des idées, par définition, éphémères. Vous en avez du style, vous, Marc Fumaroli?
Écoutez, j'espère que j'en ai un peu. Je ne peux pas tout de même me vanter à ce point.
Comment est-ce que vous l'avez travaillé?
Écoutez, c'est surtout parce que je suis au fond un très abondant lecteur et que à force de lire, j'ai fini par comprendre ce qu'il fallait éviter et ce à quoi il fallait aussi recourir. Alors je ne sais pas si c'est un style qui durera, qui s'imposera, mais en fait, je m'y suis toujours tenu.
Mais quels sont discordants, quels silences, quels étonnements, quelles intuitions contradictoires sont venues unifier ce style qui est le vôtre ?
Tout simplement le fait que je n'accepte pas les réponses définitives.
Pourtant, vous en avez donné quelques-unes ce matin.
Quelques-unes, mais elles ne sont pas définitives.
Ces lignes, en tout cas, je le disais, vous les écriviez à l'occasion de la sortie d'un livre de Jean d'Ormesson paru il y a 16 ans et qui s'appelait « C'était bien ». Quel ami est-ce que c'était pour vous, Jean d'Ormesson ?
Pour moi, c'était, étant donné que vous savez que j'ai une passion pour le XVIIe siècle, c'était un gentilhomme du XVIIe siècle, parmi nous, et avec une aisance, une élégance, un bonheur de paraître et d'apparaître, rare, devenu rare en tout cas. Ce qui fait que, pour moi, c'était même une confirmation de mes choix initiaux, étaient bien loin de ceux de Jean.
Il vous manque, aujourd'hui ?
Il me manque beaucoup. Mais il n'est pas le seul à me manquer. J'avais aussi un éditeur merveilleux qui s'appelait Bernard de Fallois. J'avais aussi plusieurs amis exceptionnels. Et maintenant, je me sens un peu seul.
J'aimerais, si vous le voulez bien, vous faire entendre la voix de Jean d'Ormesson dans l'un de ses derniers entretiens. C'était à mon micro, en l'occurrence dans l'émission 21 cm sur Canal+.
Vous savez, mourir, ça ne doit pas être très agréable. Mais être mort, c'est délicieux. C'est délicieux. Plus de chagrin d'amour, plus de contravention, plus d'impôts, plus de télévision. Quelle merveille! J'ai beaucoup aimé la vie, mais ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est qu'elle s'achève. Heureusement, nous mourons. Le monde est beau parce qu'il s'achève. L'immortalité, c'est un cauchemar.
Mais vous êtes immortel. Vous êtes académicien.
Oh, vous connaissez le monde Cocteau. Nous sommes immortels pour la durée de notre vie. Après, nous nous changeons en fauteuil.
Qu'est-ce qu'elle vous inspire, ces réflexions de Jean d'Ormesson, Marc Fumaroli ?
C'est la sagesse même.
Depuis quand vous pensez à la mort, vous ?
Écoutez, il y a un livre de Conrad qui s'appelle « La ligne d'ombre ». Pendant 50 ans, j'ai vécu sans me douter que c'était là une réalité que je devais un jour ou l'autre approcher. Et tout d'un coup, j'ai franchi la ligne d'ombre. En ce moment, je suis en train d'écrire un livre. J'espère avoir encore quelques temps à vivre pour le terminer. Mais j'étais préparé quand même. Je n'étais pas naïf au point de croire que tout cela durerait encore 50 ans.
Tout compte fait, qu'est-ce qui a compté le plus dans votre vie, Marc Fumaroli ?
Mes amis. Ils se sont évanouis, ils ne sont plus là. Je les garde comme des trésors, mais j'aurais préféré qu'ils restent encore un tout petit peu en ma compagnie.
Et les regrets, vous en avez ?
Pas trop.
Jean d'Ormesson, il parlait toujours d'espérance et de joie. Qu'est-ce qui parvient toujours encore aujourd'hui à vous apporter la joie ?
Les bonnes lectures et aussi les quelques amis qui me restent quand même et qui m'entourent.
Merci infiniment, Marc Fumaroli, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Parti pris vient de paraître dans la collection Bouquins des éditions Robert Laffont. C'est un délice de se plonger dans ce style, il faut quand même le dire tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
To be there, she says she won't care. Now you have something, before you had nothing. I don't want to care, but your love's real, and it's an odd thing. I cannot be your whole world, but sit on the fake grass, and I won't believe that.
enough for you, but you said someone will come and replace me. How can you replace me? While it's true,
stop.
One love, you're heading on your own love. The time not to be there. She says she won't care. And now you have something. Before you had nothing. I don't want to care, but your love's real, and it's a long thing. How can I be your whole world? You sit on the fake grass, and I won't believe that. And I never had enough. Someone will come and replace me. How can you replace me? Why it's true?
Four, all good now, Jungle sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villars,
l'instant M. All good now, l'instant M. Ciao, Augustin, à demain.